qu'on puisse le prendre ensemble.
Voilà, avant le message que nous apportera Bertrand, quelques lectures que nous allons nous partager. La première, c'est de Exode 20, versets 1 à 3. Alors Dieu, donc il s'adresse à Moïse en fait, et au peuple.
À Moïse et à tout le peuple.
Et à tout le peuple d'Israël. C'est avant les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
La deuxième lecture est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, les versets 7 à 9. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas, et tout autre commandement se résume dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et le texte du jour dans Matthieu, c'est donc Jésus qui s'exprime suite à des questions sur cet impôt à César. Au verset Matthieu 22, versets 15 à 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique, que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce que tu en penses, est-il permis ou non de payer le tribut ou l'impôt à César ? Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, » lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Que Dieu te bénisse dans ce moment. Sois bienvenu parmi nous.
Merci, Paul Robert. Plusieurs d'entre vous me connaissent, je crois. Alors, je suis pasteur à Vernier, dans l'église protestante. Et par ce biais-là, je prêche ce matin parmi vous. Mais je suis aussi d'autres fois parmi vous, parce que je suis aussi le mari de Sylvie, le père d'Aurélien, Clément et Lynn, le futur beau-père de Diego. Et voilà, quand je viens ici, en quelque sorte, il me faut rendre à Bertrand le pasteur, ce qui est du pasteur, et puis à Bertrand le papa et Marie, ce qui est du papa et du mari. Ce qui est déjà une tâche intéressante. Dans toute notre vie, nous avons ce que nous appelons des loyautés à devoir vivre. Et puis celle qui nous est proposée ce matin, c'est pas du tout facile. Nous allons y réfléchir un petit peu. Alors d'abord, les pharisiens qui arrivent, ils sont excédés, ils en ont ras-le-bol de ce Jésus, ce rabbi de Nazareth. Faut dire que chaque fois ils arrivent vers lui, bardés de tout ce qu'ils savent, de ce qu'ils essayent de faire au mieux dans leur manière de vivre leur judaïsme. Et puis, face à lui, face aux gens qui écoutent, ils repartent et ils ont l'impression qu'ils sont comme des enfants qui se sont fait rabrouer, qui se sont fait remettre en place. Et c'est dur, parce que quand on est enfant, on a envie de participer à ce que font les grands, on a envie de comprendre les choses, de dire des choses intelligentes. Et les pharisiens, ils en ont vraiment assez. Cette fois, ils viennent avec un plan très bien préparé. Et voilà qu'une fois de plus, Jésus va leur rendre la monnaie de leur pièce, c'est le cas de le dire, et qu'ils vont un peu perdre la face à nouveau, très étonnés, repris dans leur conscience. C'est pourtant bien manigancé. Ils sont arrivés pour le confondre devant témoins. D'abord, ils lui passent une bonne couche bien onctueuse de pommade flatteuse pour qu'il baisse sa garde. « Rabbi, nous savons que tu es véridique, que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des humains. » Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien à redire. C'est tout à fait exact. Et je crois que c'est bien pour ça que nous aimons le Seigneur Jésus. Parce qu'il est vraiment l'humain à l'image de Dieu. Hein, Xavier, tu disais qu'on est façonné à l'image de Dieu. Jésus, il a été vraiment cet humain à l'image de Dieu. Et en tant que tel, il nous révèle à nous un Père juste et aimant qui s'approche de nous et qui nous fait de la place pour vivre en face de lui et à côté des autres, nous sachant respecter et honorer à son image. Je vous présente un gars à l'image de Dieu. Je dois des fois m'en persuader moi-même, je ne sais pas pour vous, mais voilà. Et puis ça, c'est la première table de la loi. La table qui est en face, c'est que vous êtes pour moi des humains à l'image de Dieu. Et que c'est ainsi que je vous vois grandir à l'image de Dieu et que Dieu s'approche aussi de moi. Là, il y a, comme me disent les pères de l'Église, un profond mystère. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors, on a envie de dire aux pharisiens, bravo les gars, voilà une super définition. C'est juste un petit peu dommage que vos paroles soient à double face. Flatteuses en apparence, mais du côté pile, c'est un petit peu moins positif ce que vous pensez. Et Jésus connaît très bien la face pile de ce qu'ils sont venus lui dire et faire, leur malignité. Alors venons-en bien sûr à la question qui fâche, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Le tribut, donc un impôt. Effectivement, il s'agit de payer un impôt. Nous aussi, nous payons nos impôts. Enfin, en général, oui, c'est assez difficile de frauder quand même. Donc, à l'époque, Rome était partout, c'était l'occupant, et il y avait ce qu'on appelait des procurateurs dans chaque province qui percevaient cet impôt pour l'Empire. Et ça permettait à l'Empire, bien sûr, de se donner les moyens de sa politique militaire, administrative, en génie civil, et que sais-je encore. Les simples citoyens étaient redevables à Rome, rendre à César. Ils devaient rendre des comptes de ce qu'ils recevaient, même s'ils disaient que ce qu'ils recevaient n'était peut-être pas toujours super positif. Enfin, quand on vit en pays occupé, on a des sentiments assez ambivalents. Alors, voilà que le fait est aussi qu'ils rendent des comptes à leur Dieu, en tant que juifs vivant sur le territoire de ce qui est pour eux Israël, avant d'être la province romaine de Syrie, telle qu'elle était appelée par l'Empire. Et le pire en tout ça, c'est qu'au fond, les pharisiens ne sont pas vraiment passionnés eux-mêmes par cette question. Le problème, ils le règlent assez facilement, comme on va le voir plus tard. Bien sûr, les Romains, c'est un petit peu un mal inévitable. Mais rendre à Dieu ce qu'est à Dieu pour eux, ça a à voir plus en matière d'observance religieuse, d'exceller dans un certain nombre de prescriptions données par Moïse et sur laquelle ils ont ajouté beaucoup, beaucoup de commentaires. Mais ils savent pertinemment que la question du tribut à César est par excellence la question piège pour attenter à la popularité de Jésus. Quoi que celui-ci réponde à cette question, il est mal barré et attendu au contour par des adversaires qui vont sortir du bois. Et c'est bien pour cela que les pharisiens sont venus avec des Hérodiens. Le reste du temps, ils ne sont pas tellement avec des Hérodiens. Les Hérodiens, ce sont donc les partisans du tétrarque Hérode Antipas, collabo notoire avec les Romains. Il lui permettait d'être roi, et lui permettait aux Romains, par un système d'alliance, d'établir leur pouvoir et de maintenir le peuple assujetti. Si Jésus répond à la question « Non, Dieu ne le permet pas », eh bien, il aura l'approbation enthousiaste des nationalistes zélotes pour qui le refus de payer le tribut est un moyen de ne pas se souiller avec cet ennemi anathème qui les occupe. Et en plus, la foule qui l'écoute et souffre de l'occupation de Romaine aura certainement beaucoup de sympathie pour lui. Seulement, les Hérodiens n'auront de cesse d'aller immédiatement faire entendre sa réponse aux autorités romaines pour cause d'insoumission. Donc mal barré sur le plan politique et du futur de Jésus. Et puis bien sûr, si Jésus pense enfuir ce péril, court de l'autre côté et dit « Ouais, il est permis de payer le tribut ». Toute sa popularité auprès du peuple va faire comme une baudruche. Ça va se dégonfler. Et puis alors, les pharisiens, ils ne seront pas trop gênés pour aller s'occuper de Jésus, l'éliminer discrètement, sans provoquer trop d'émoi parmi le peuple. Heureusement. Si le piège est diabolique, l'habilité du Seigneur est réellement divine. Seul sous le feu des regards et de la critique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer le projecteur. Voup! Il était entièrement focalisé sur lui et il va le remettre sur ceux qui sont venus l'interroger. Montrez-la-moi cette monnaie de l'impôt. Et ces questionneurs commencent à se regarder. Et puis il y en a un finalement qui sort de sa poche, ce qu'on appelle un écu. Alors je suis désolé, les photocopies, c'est pas terrible. Vous voyez quelque chose là? Pas trop, hein? Puis si j'ai agrandi, attendez, quelle est de mon côté, voilà. Enfin, c'est la tête d'un empereur. Ça, c'est d'une pièce qui date d'un petit peu avant Jésus, mais enfin, l'idée est là. Donc, il sort de sa poche une pièce avec l'effigie de César, l'empereur régnant. Et cette représentation symbolique signifie, avec le faciès impérial, que celui qui dirige l'empire attend des détenteurs de ces pièces, ceux qui font du commerce avec, qu'ils lui payent quelque chose, qu'ils lui rendent quelque chose. Bien sûr, là où la chatte a mal aux pieds, c'est que cette effigie montrée sur les pièces, elle a quelque chose de divinisé. Et pour un juif pratiquant, pour nous chrétiens aussi, avoir une pièce un peu divinisée, quelqu'un qui prend la place de Dieu, ça ne joue pas. Là, ça, on ne sait plus si on doit payer cet impôt ou pas, on a vraiment des problèmes de conscience. Les pharisiens n'avaient pas trop de problèmes de conscience. Ils vivaient cela assez normalement, ils payaient leurs impôts aux Romains en se disant « ben voilà, ça c'est des affaires terrestres, nous on se prépare pour le royaume de Dieu, on prépare les gens au royaume de Dieu, donc on le vit sur un autre plan ». Mais parmi les témoins de la scène, dès qu'il y a un pharisien qui a sorti la pièce de sa poche, ben ils lui ont glissé des regards peu amènes, parce qu'ils se sont dit « ben voilà, en tout cas ça ne les gêne pas trop ». Alors Jésus continue sa démonstration. Il demande ensuite à l'escouade venue le piéger « De qui est cette effigie ?» Il n'est pas bête, Jésus, il sait bien de qui il s'agit, qu'il s'agit de l'empereur. Mais il le leur fait dire par eux-mêmes. En quelque sorte, il va les laisser répondre eux-mêmes. Et ils descendent de leur piédestal de super spirituel dans la cour des Juifs qui essayent de vivre leur foi entre leurs responsabilités et lâcheté quotidienne ou leurs héroïsmes quotidiens en pays d'Israël occupé. Il leur fait dire en acte, « Eh oui, nous avons en poche l'effigie de César, nous sommes juifs et pratiquants, et en même temps, nous devons allégeance à ce gouvernement, nous ne pouvons pas vivre en dehors de l'économie, nous faisons la part des choses entre notre foi et l'État qui nous régit. » C'est assez actuel tout ça, non, finalement. On peut dire ça nous échappe pas, ce genre de raisonnement. Ils font ce qu'avaient déjà dû faire les Juifs qui avaient été exilés à Babylone il y a longtemps, comme le font et le feront les citoyens juifs répartis dans le monde entier, la diaspora, et même comme le feront un jour les citoyens arabes dans ce qui est pour eux la Palestine occupée, même si les acteurs changent. La façon de raisonner n'est pas très différente. Jésus ne condamne pas cette équipe pharisaïo-hérodienne pour avoir l'effigie romaine en poche. Il constate et fait constater à la ronde leur essai de vivre en régime d'occupation sans renier l'essentiel. Mais son mot d'ordre, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ça peut être finalement bien plus radical. Toute la question pour nous croyants, c'est d'interpréter correctement cette phrase devant Dieu et devant ceux qui nous gouvernent et de faire la part des choses. Est-ce qu'on fait ça joyeusement ou en grinçant des dents ou quelque part entre les deux? En disant par exemple, en regardant une pièce de monnaie, j'aurais pas cru ça de toi, Guillaume Tell. Espèce de face de fausse thune, collabo du fisc, prends ce qui leur revient à cette équipe d'affameurs et laisse-moi tranquille, occupe-toi de tes pommes. D'abord, ça ne marche pas parce que ce n'est pas Guillaume Tell, c'est un berger. C'est intéressant que ce soit une image de berger. Et puis, vous savez ce qui est écrit aussi sur la tranche, sur le côté? Dieu pourvoira, Dominus Providebit. Effectivement. Donc il n'y a pas d'idolâtrie, vous êtes soulagés j'espère, dans nos pièces de monnaie. C'est important de le savoir. Alors bien sûr, si on ne réagit pas envers Guillaume Tell ou le berger de cette façon, On peut aussi dire, ben voilà, nous vivons comme chrétiens et citoyens dans un État laïque, laïcisé. Alors voilà, je m'acquitte de ma participation au maintien d'une société démocratique et pourvoyeuse de services par mon impôt. C'est très joli à dire, je ne suis pas sûr qu'on fasse ce raisonnement exactement, mais enfin, c'est un petit peu cela, pourvu que ceci ne m'empêche pas de faire mon devoir de croyant en rendant à Dieu ce qui lui revient. Finalement, dans l'histoire de l'Église, un certain Martin Luther avait ce raisonnement aussi. Il disait, en essayant d'aimer mon prochain comme moi-même, j'accomplis la loi. Et puis en rendant à César ce qu'est à Dieu, à l'empereur ce qu'est à l'empereur, en payant mes impôts, je m'acquitte de ce qui est mon devoir de citoyen. Dieu a placé sur mon chemin des gens pour régner et il est derrière tout cela. Et Luther est un peu dans la manière de considérer les choses au Moyen-Âge aussi. C'est ce qu'on appelle la doctrine des deux règnes, les règnes de ce monde et le règne qui n'est pas de ce monde, le royaume à venir du Seigneur, dont on témoigne par notre éthique d'amour. Et Luther conclut son argumentation en disant « Si l'autorité politique était intrinsèquement mauvaise, Jésus n'aurait pas invité à rendre à César ce qu'est à César. » Le réformateur Jean Calvin a à peu près la même manière de voir les choses. L'obéissance envers les princes et les magistrats s'accorde bien avec la crainte et le service de Dieu, pourvu tout de même qu'on garde une conscience libre. Si les princes usurpent quelque chose de l'autorité de Dieu, il ne faut point leur obéir, sinon autant qu'il se pourra faire sans offenser Dieu. C'est là que peut-être on réalise quelque chose. À l'époque des réformateurs, les anabaptistes allaient plus loin. Ils disaient, mais les gouvernements de ce monde sont parfois corrompus. Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, est-ce que c'est les suivre? Le problème s'est posé aussi plus tard, pour les objecteurs de conscience, par rapport à l'armée. Est-ce que c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu d'apprendre à tuer des gens? Oui, mais on défend notre pays, on les empêche de se faire tuer. Pas toujours facile cette question, mais nous avons dû aller bien plus loin. Avec le Gottschmidt Uns des nazis, on ne peut plus obéir à un gouvernement. Et certains chrétiens l'ont bien vu dans l'Église allemande. Et puis, actuellement, quand on impose un État islamique, alors il y a une époque où on imposait aussi un État chrétien, mais avec le glaive, est-ce qu'on est encore pleinement dans la volonté de Dieu? Suivant où on va, on se met à la place de Dieu et force est de constater qu'il faut alors résister, comme aurait dit Marie Durand, à ce qui sont des véritables idolâtries. Quand quelqu'un se met à la place de Dieu, il se donne à lui-même un visage qui n'est plus à l'image de Dieu. Dieu ne peut pas être représenté directement par un être humain. Il est beaucoup trop grand, trop loin. Quand nous sommes à son image, ça veut dire que nous avons quelque chose de lui qui nous forme à son image, qui nous façonne. Mais en tant que tel, nous rendons toute la gloire à Dieu. Et à partir d'un moment où on donne allégeance uniquement à un gouvernement et qu'il n'y a plus de distance entre ce gouvernement et Dieu, il y a une idolâtrie, quelque chose qui n'est plus possible. La doctrine des deux règnes aujourd'hui n'est plus la réponse imparable. Alors, vous m'avez vu tenir des pièces de monnaie dans les doigts. Dès le deuxième siècle de l'histoire de l'Église, il y avait un chrétien d'Afrique, Tertullien, qui disait quelque chose d'assez fort. Comme une image et une inscription occupent les deux côtés de la monnaie, l'être humain est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il porte le nom que Dieu lui a donné et participe de tout son être. Donc, même si nous n'avons pas la tête de Dieu, en quelque sorte, de tout notre être, c'est lui qui nous façonne. Nous sommes à lui. Et ce monde lui appartient. Donc face à tout Pontifex Maximum, il n'y a qu'un seul Dieu à qui revienne notre adoration, notre fidélité et notre être éternellement. Le Seigneur y pourvoira, nous nous en remettons à lui, même dans le domaine financier. Dans le propos de Jésus, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce n'est pas au même niveau. Ça ne peut pas justifier une stricte séparation entre le temporel et le spirituel. Et le spirituel ne peut pas être cantonné dans la sphère privée sans implication citoyenne et politique. Actuellement, il y a un certain nombre de personnes dans des partis politiques qui nous disent « Mais vous, les chrétiens, occupez-vous de la sphère privée. » Mais est-ce qu'entre la sphère publique et la sphère privée, il y a une muraille avec une porte qu'on ne peut pas ouvrir ? Jésus est une porte lui-même et il allait de l'un à l'autre. À la suite des prophètes d'Israël, Jésus a témoigné aussi par son souci de chacun que le souci de Dieu est d'abord pour les laisser pour compte, pour les petits, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est leur rendre aussi ce qui leur revient. Est-ce qu'il ne rappelait pas aux pharisiens d'ailleurs, vous payez toutes sortes d'impôts, vous ordonnez aux autres de faire de même, et voilà, vous négligez la veuve et l'orphelin ou l'étranger qui est dans vos portes. Est-ce que vous pensez ainsi être fidèle à Dieu ? Dans l'esprit de Jésus, César a lui aussi des comptes à rendre à Dieu. Je cite quelques paroles du pasteur Charles Leplanetier, pasteur français. Il dit que rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est une parole beaucoup plus forte que de payer ou pas le tribut à César. C'est une revendication du droit de Dieu sur toute notre vie, telle qu'il est. Une revendication subversive contre tout ce qui, dans nos sociétés, tend à détruire l'image de Dieu qui réside en tout homme et contre tout ce qui contribue à avilir, à annihiler, opprimer des individus ou des groupes sociaux. Le droit de Dieu est lésé quand des droits humains sont bafoués. Rendre à César l'honneur légitime qui lui est dû, c'est alors savoir le contester ou lui résister quand il n'est plus le garant d'une justice égale pour tous. Là, c'est moins reposant comme attitude. On est obligé de faire la part des choses en situation. Et surtout, nous le savons bien, nous sommes pris dans nos allégeances, nous ne pouvons pas vivre en totale indépendance, sans se soumettre à des lois et à des règles qui nous circonscrivent en tant que citoyens. Nous nous référons aussi dans notre vie à des influences diverses, des personnes, mais bien sûr la Bible pour nous, dont nous nous inspirons et parfois nous dépendons. Le chemin de liberté chrétienne que Jésus nous a montré et que Paul qualifie de voie par excellence, équilibre en un même commandement, gravé dans le cœur et inspiré par l'Esprit, les deux tables de la loi, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Dans chaque personne rencontrée, nous apprenons à voir le visage de Dieu, même quand il est terriblement abîmé. Et vous savez, sur les billets de banque, pendant longtemps, il y a eu des visages. Il y en a de moins en moins maintenant. Il est question, même en Suisse, de refaire bientôt des nouveaux billets où il n'y aura plus de visages dessus. Ces visages, ben, c'est des personnalités connues. Je parlais de Guillaume Tell, mais il y a Le Corbusier, il y en a plusieurs autres. Quand un billet de banque garde un visage humain, peut-être que ça nous ramène à cette image de notre prochain. Et on ne peut pas faire n'importe quoi au nom de l'argent. Malheureusement, actuellement, on a un petit peu l'impression que le grand système monétaire s'affranchit de fait d'être redevable à Dieu et d'être redevable à notre prochain, à l'image de Dieu. C'est comme si même Dieu lui-même devait ouvrir un compte chez Mammon's Banking pour pouvoir obtenir encore quelques miettes de reconnaissance humaine. Il y a quelque chose qui dérive complètement dans le système financier mondialisé. Si Dieu nous a libérés de la maison de servitude, prologue à tous les commandements, nous manquons le devoir d'amour fondamentalement en nous laissant mettre sous le joug d'une servitude financière qui défigure l'humanité à son image, qui lui enlève tout visage. Alors, là encore, on ne peut pas vivre en dehors du système monétaire et financier, mais je crois que dans certaines actions boursières ou autres, il nous faut avoir les yeux ouverts et demander à Dieu de nous guider. Et ce qui est valable sur le plan financier l'est également sur le plan politique et même religieux. Comment, en défigurant l'humain à l'image de Dieu, pourrait-on servir Dieu? C'est ce qui se passe effectivement aujourd'hui en Irak, qui se passe en pas mal d'autres lieux, en niant à des êtres humains le fait d'exister. Ben moi, je ne comprends pas comment on peut le faire au nom de Dieu, simplement. Et j'étais mardi soir, je crois, à une réunion interreligieuse à la Fusterie, où en tant que chrétiens, nous étions réunis pour dire notre soutien aux chrétiens d'Irak. Et il y avait aussi des Yazidis, cette communauté que nous avons un peu de peine à comprendre la théologie, mais qui existe encore en Irak. Et il y avait des musulmans et des juifs qui étaient là. Et le représentant de l'islam, Hafid Wardiri, a dit très clairement que pour lui, ça ne peut pas venir de Dieu, ce que des gens là font. Il s'est clairement profilé. À nous de le savoir aussi et à ne pas mettre tout le monde dans le même sac, bien sûr, en rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous parlons ici de l'amour qui a pris le visage du Christ et dont la croix rejoint, grâce à notre témoignage, tous les humains défigurés dans leur dignité et intégrité. Le chant disait au début, il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne. Jésus est ainsi à l'image de Dieu envers nous. Alors que Dieu nous aide à ne pas perdre la face. Amen.
Ceux qui savent les gestes de ce chant, faites-le.